RMC, After Coupe du Monde, les 48 équipes. Aurélien Tiercin.
Amis de RMC, bienvenue. La Coupe du Monde de foot, c'est là. Ce sera sur RMC, évidemment, en intégralité du 11 juin au 19 juillet. After Coupe du Monde, spécial Belgique. C'est en podcast, en vidéo sur l'After Foot TV, sur YouTube, sur tous les canaux, comme toujours. Et donc, la Belgique, le meilleur ennemi de l'équipe de France, l'adversaire le plus souvent affronté dans son histoire, et surtout une top équipe mondiale depuis plus de 10 ans. Désormais, les Belges qui seront dans le groupe G avec l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Avec moi, pour en parler, on a le plaisir de recevoir Stéphane Van Lock, ex-responsable presse des Diables Rouges pendant une dizaine d'années. Ravi de te recevoir, Stéphane. Comment vas-tu?
Très bien, merci. Je profite de ma pension, de ma retraite.
Merci beaucoup, Stéphane. Et avec nous également Manu Jousse, journaliste de la RTBF, suiveur de l'équipe nationale des Diables Rouges depuis de longues années également. Salut Manu.
Oui, salut Aurélien.
Et la Belgique à la Coupe du Monde, évidemment, dernièrement, c'est ça.
Et regardez l'usage qu'il fait de Bruyne qui a juste Meunier à côté de lui. Il frappe, c'est et goal, c'est goal. Belgica. Kevin Vita Eternam sur un but pareil.
Le but de Kevin De Bruyne, messieurs, le 2-0 contre le Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde 2018. Ce quart de finale en Russie, justement, est-ce que c'est le plus grand moment des Belges, votre plus beau souvenir à la Coupe du Monde? Alors, j'imagine la suite, un petit peu moins bon souvenir, élimination contre la France en demi-finale. Mais c'est vrai que cette épopée de 2018, c'est finalement l'image de la Belgique en Coupe du Monde. Stéphane, peut-être pour commencer.
Oui, en tout cas, c'est clairement mon plus beau souvenir professionnel, c'est certain, cette épopée belge à la Coupe du Monde en Russie. Alors forcément, sportivement, le plus grand moment, c'est la victoire contre le Brésil. Ça, c'est incontestable. En Belgique, on retient beaucoup aussi le huitième de finale contre le Japon, adversaire plus modeste, bien sûr, mais c'est le déroulement du match qui fait qu'on le retient, qui est un petit peu passé à la postérité avec cette remontada et le but à la toute dernière seconde. Et puis, évidemment, cette fameuse élimination en demi contre l'équipe de France. Mais oui, la victoire contre le Brésil, forcément, elle fera date.
Stéphane, vous étiez du coup à l'intérieur de cette équipe 2018, ça reste une épopée extraordinaire et ce deuxième but contre le Brésil, bon, on entend le commentateur qui s'enflamme évidemment parce que la petite Belgique, entre guillemets, 12 millions d'habitants, est en train de mettre à terre le grand Brésil. C'est vraiment la Coupe du Monde référence pour l'équipe de Belgique.
Oui, absolument, c'est la Coupe du Monde référence et aussi pour moi le sommet de ma carrière professionnelle. Mais je dis toujours, évidemment, le match contre le Brésil était le sommet, c'est magnifique, c'est comme gagner une finale. Mais je dis toujours, sans la victoire contre le Japon, sans la surprise, parce qu'on a été mené 0-2, donc sans la surprise contre le Japon, on ne parle pas du Brésil. Donc pour moi, le match contre le Japon reste le plus important, le plus phénoménal comme match. Mais la prestation, le résultat, évidemment, battre le Brésil pour la première fois dans un match non amical, parce qu'on avait perdu en Corée du Sud avec le but annulé de Marc Wilmots, vous vous souvenez bien. La première victoire contre le Brésil, c'est comme gagner une finale. Et c'est pour ça que l'héritage de la Belgique, après la Coupe du Monde, même s'ils n'ont pas gagné une coupe, mais quand même une médaille de bronze, était quand même assez phénoménal. Oui.
Et 8 ans après, est-ce que ça reste le plus beau souvenir, cette troisième place qui est le meilleur résultat de l'histoire de la Belgique en Coupe du Monde? Est-ce que c'est toujours un très bon souvenir ou il y a un petit traumatisme quand même de sortir contre l'équipe de France en demi-finale, d'avoir été si proche avec peut-être la plus belle génération de joueurs belges? Tout le monde était à son prime.
Oui, absolument. Ça pourrait pas être mieux. C'est le souvenir que je retiens le plus dans ma carrière, même comme journaliste et comme porte-parole et chef de presse. Ce que Roberto Martinez a réussi là-bas, après, il avait déjà son tactique déjà dans la tête, loin avant qu'on savait qu'on allait affronter le Brésil. Mais ce qu'il a fait là-bas, dans une période assez limitée quand même, mettre les joueurs sur les bonnes places, même que tout le monde au début était surpris qu'est-ce qu'il va faire, mais aussi les joueurs. Oui, c'était un truc vraiment incroyable.
Et est-ce absolument que tu as des petites anecdotes comme ça dans ce vestiaire fou avec Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Alderweireld, Vertonghen, la plus grande équipe de Belgique?
Oui, surtout en coulisses, parce que honnêtement, en vestiaire, comme chef de pièce, on rentre pas comme ci, comme ça dans les vestiaires. Je vais chercher les joueurs quand j'en ai besoin ou je demande au responsable de la sécurité, mais je rentre pas dans les vestiaires si on me demande pas. Donc, j'étais pas en vestiaire, mais en coulisses. Vous savez, quand je fais comme chef de presse, je suis les matchs en tribune de presse ou dans un technical seating, ça veut dire des places pour les gens qui ne sont pas sur le banc. Et je descends 10-15 minutes avant la fin pour pouvoir organiser les activités médias. On était là avec Bart Ferrag et Mehdi Bayat, on était en train de suivre les dernières secondes. Sur un écran télé dans les couloirs du stade. Et là, oui, Mehdi Bayat m'a pris la main, il n'a plus lâché avant la fin du match. Bon, ce sont des moments incroyables, des moments où tu peux pas imaginer, mais des moments où tu danses avec Thierry Henry, quand même, un star mondial, où tu danses avec Thierry Henry sur un terrain de foot, en s'embrassant, tout ça, c'est incroyable. C'est un peu starstruck, comme on dit, même à 60 ans. Mais quand même, c'était vraiment magnifique. Ça pouvait pas être mieux.
Et alors, à la Coupe du Monde 2026, Manu, ce sera la 15e participation de l'histoire de la Belgique en Coupe du Monde. On retient, pour ma génération évidemment, la troisième place de 2018, mais il y a aussi la demi-finale de 1986, avec une petite finale perdue contre l'équipe de France. C'était l'époque d'Éric Guéret, Enzo Schifo, Frankie Vercauteren, Nico Claessens. Est-ce qu'il y a bataille dans l'esprit, dans l'imaginaire des Belges, Manu, entre cette génération 86 et cette génération 2018? Quelle est la plus belle équipe de Belgique dans l'imaginaire collectif?
Oui, alors il y a un petit peu bataille par rapport aux souvenirs que ces Coupes du Monde laissent, hein, parce que le Mexico 86, c'est quasiment légendaire ici en Belgique. L'apparition des Diables Rouges sur le balcon de l'hôtel de ville, une grande place de Bruxelles noire de monde pour aller célébrer leur parcours. Donc c'est vrai qu'on se place finalement une marche plus haut, on s'est placé une marche plus haut avec la Coupe du Monde 2018, et donc certains disent ben, cette épopée-là remplace Mexico. Je pense que c'est difficile vraiment d'établir une hiérarchie. Alors certainement, en termes de talent individuel, on était beaucoup plus haut en 2018, parce que là, il y a toute une série de joueurs que vous avez cités, les Courtois, De Bruyne, Hazard, Witsel, Lukaku, qui étaient compagnie, tout cela en même temps, c'était une coïncidence incroyable. On était plus dans un collectif en 86. Cela dit, si vous me demandez mon avis par rapport à la valeur de l'équipe de la fin des années 80, je trouve que la plus belle équipe qu'on ait eue, c'est lors du mondial suivant, en 90, le mondial italien, où on a malheureusement été éliminé par l'Angleterre en 8e sur un but de David Platt à la toute dernière minute. Ça, c'était une équipe absolument incroyable, mais qualitativement, forcément moins forte que 2018, qui était le sommet.
Stéphane, votre avis aussi là-dessus. Vous étiez là en 2018, donc quasiment au cœur de l'équipe, mais en 86, j'imagine que votre cœur battait aussi pour cette équipe-là.
Absolument. Je commençais à travailler pour la radio. J'étais tout seul la nuit en la rédaction, en suivant le match à la télé avec le commentateur radio. Et c'était une épopée aussi vraiment fantastique. Et oui, moi, je sais aussi parce que j'ai encore beaucoup de contacts avec des joueurs de cette époque-là. Et oui, il y a quand même une petite rivalité. Qu'eux, ils avaient avant, ils avaient perdu la finale des Euros en 80, puis en 86, demi-finale à Coupe du Monde. Pour eux, eux, ils étaient la meilleure équipe, la meilleure prestation dans l'histoire du foot belge, avant que cette génération dorée arrivait. Donc, il y avait quand même une petite rivalité, mais comme Manu a dit, la génération de Vincent Kompany, De Vermaelen, de Courtois, De Bruyne, Hazard, c'était vraiment en qualité de joueur, en talent, c'était encore un pas plus haut. Ça, c'est absolument vrai.
Et il y a aussi donc le quart de finale 2018 pour recontextualiser l'histoire de la Belgique globalement. L'équivalent de 6 huitièmes de finale, donc soit des vrais huitièmes de finale, soit passés au second tour. La Belgique, on rappelle que géographiquement, messieurs, c'est un petit pays, 30 000 kilomètres carrés, 12 millions d'habitants. Mais depuis 10 ans, la Belgique, c'est dans le top 8 du classement FIFA. Est-ce qu'avec ce classement dans le top 8 permanent, Manu, on peut dire que la Belgique est un des favoris naturels de la Coupe du Monde aujourd'hui, ou c'est encore trop prématuré?
Pour la Coupe du Monde 2026, la Belgique n'est certainement pas une nation favorite. Hein,
Malgré ce classement dans le top 8 mondial de la FIFA, on le rappelle.
Ah, bien sûr, bien sûr. Déjà en 2022 au Qatar, on pouvait dire qu'on
Oui.
figurait parmi les outsiders, mais on était un petit peu sur la pente descendante de la génération dorée. Et finalement, le fait qu'on soit là pour autant de Coupes du Monde consécutives, c'est un petit peu un cercle vertueux. On a signé de bons résultats et surtout dans la campagne de qualif, on est toujours très très bon. Donc on marque des points pour le classement FIFA. Du coup, ça nous permet d'être tête de série pour les tirages au sort des phases finales. Du coup, on a des groupes abordables. Voilà, donc c'est ce cercle-là dont il faut essayer de ne pas sortir parce que une fois qu'on n'est plus tête de série, ça devient très difficile de remonter. Et donc, voilà, progressivement, les joueurs de cette génération dorée ont pris leur retraite. Il en reste de moins en moins. On a encore Courtois, on a encore De Bruyne et Lukaku. Et donc, on construit le reste un petit peu autour d'eux, mais on ne peut certainement plus considérer aujourd'hui que la Belgique figure parmi les favorites.
Pour terminer sur l'histoire de la Belgique en Coupe du Monde, un petit mot, Stéphane, peut-être sur l'édition 2022 au Qatar. Est-ce que c'est un traumatisme d'être sorti au premier tour, victoire contre le Canada, défaite face au Maroc et match nul contre la Croatie, un 0-0, alors qu'il y a des énormes occasions. Je me rappelle, je commentais le match au
Ouais.
Qatar et Lukaku, effectivement, il rate quelques occasions assez énormes. Hazard partira, Alderweireld, Vertonghen. C'est voilà la petite mort de cette équipe, même s'il reste des dinosaures, comme vous l'aviez dit, des énormes joueurs.
Oui, en effet, c'était une déception totale. Ça avait déjà mal commencé avec le match amical contre l'Égypte en Koweït qu'on a perdu. Et là, donc, c'était pas bien du début. Oui, c'était une déception énorme parce que c'était la dernière chance de se remettre de la quand même déception de 2018. Même que c'était la meilleure prestation, mais on a quand même perdu les demi-finales, on a loupé la finale. Donc, c'était, oui, c'était une déception énorme. Aussi pour Romelu Lukaku, qui était enfin prêt pour jouer, prêt ou pas prêt totalement. Et pour lui, c'était vraiment une déception totale parce qu'il a raté d'occasion, mais on ne peut pas le reprocher parce qu'il était pas, il n'y avait pas de rythme de match peut-être assez pour être vraiment au top, donc pour lui c'était encore plus dur que pour les autres, je crois.
Bon, on va analyser l'équipe actuelle, désormais celle de Rudy Garcia, de Jérémy Doku ou de Kevin De Bruyne. Messieurs, Manu notamment, Rudy Garcia. Alors déjà, c'est un coach français. Est-ce que ça a été un petit débat d'avoir un coach français à la tête des Diables Rouges, surtout qu'il sortait d'une campagne avec Naples et Al Nasser pas terrible. Il s'était fait virer du club italien, il est arrivé dans une équipe qui venait de gagner le Scudetto en Serie A. Donc j'imagine que ça a un petit peu grincé des dents au départ, peut-être.
Alors, par rapport à la nationalité, c'est vrai que ce n'est pas une habitude en Belgique d'avoir un sélectionneur français, mais de plus en plus ces derniers temps, on fait appel à des sélectionneurs étrangers. Hein, c'était le cas avec Tedesco, avec Martinez, etc. Donc, voilà, on s'est souvent plus tourné en Belgique côté néerlandais que français, mais donc là, ça n'a pas posé de débats particuliers. Et par rapport à sa carte de visite ou son palmarès, on venait en fait d'un entraîneur, Domenico Tedesco, qui était un jeune coach, très moderne dans son approche, centré sur les datas, qui avait encore relativement peu d'expérience et peut-être une approche humaine avec le groupe qui n'était pas tout à fait idéale. Et avec Garcia, la fédération a choisi un petit peu l'opposé, c'est-à-dire un coach à l'ancien, du vécu, avec de l'expérience, qui n'est peut-être pas le plus moderne des coachs, on va dire maintenant, mais qui, dans l'approche humaine, a quand même une patte et une griffe indéniable. Donc, c'était la volonté de un peu de trancher par rapport à ce qu'on venait de connaître. Donc, c'était plutôt positif, en fait, comme accueil.
Ouais, Stéphane, aussi ton avis sur Rudy Garcia. Il arrive dans un contexte un peu compliqué après une ère Tedesco qui était relativement décevante. Là, on voit à l'image, il a lancé de nombreux jeunes joueurs comme Diego Moreira. On peut penser à Roméo Vermaens. Là, il y a Conny De Winter ou Maxime De Kuyper qui arrive aussi dans cette sélection belge. Est-ce que tu penses que Rudy Garcia est un bon choix pour relancer cette nouvelle génération de joueurs belges?
Je ne peux pas le juger parce que je ne connais pas personnellement et aussi je n'ai pas travaillé avec lui. J'ai des bons souvenirs de Domenico Tedesco. Et là, je veux quand même souligner que expérience, oui, mais expérience pendant un tournoi, c'est encore quelque chose d'autre. Mmh. C'était aussi le cas avec Domenico Tedesco, qui a vraiment débuté très bien avec l'équipe belge, mais au tour final en Allemagne, on voyait peut-être que le staff n'avait pas assez d'expérience sur un grand tournoi. Peut-être c'est le même cas avec Rudy Garcia. Je peux pas le juger, mais il était aussi temps de mettre et d'apporter des nouveaux joueurs, ce que Domenico Tedesco faisait aussi déjà en pas mal de termes, mais quand même, oui, on verra. Normalement, on est dans un groupe où on doit se qualifier, c'est clair.
Oui. On en reparlera à la fin de ce podcast, ça devrait passer.
Aussi, une Coupe du Monde reste une Coupe du Monde même. Et le premier match reste toujours important. On a vu ça contre le Panama en Russie. Le premier match, premier mi-temps, c'était difficile parce qu'une équipe qui joue pour la première fois une Coupe du Monde fait tout pour se défendre et pour ne pas encaisser des buts. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner maintenant. Et j'espère pour l'équipe et pour Rudy Garcia et pour toute la fédération belge qu'il veut vraiment, il peut vraiment apporter une nouvelle dynamique. Oui, ça c'est clair.
Les joueurs qui composent désormais donc cette sélection des Diables Rouges, la star attendue, la pépite de cette Coupe du Monde 2026 avec la Belgique tout de suite. L'After Coupe du Monde, épisode Belgique, donc avant le Mondial 2026 qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet. Et la star de l'équipe, Manu, ce n'est plus Kevin De Bruyne, ce n'est plus Thibaut Courtois. Selon toi, c'est Jérémy Doku. Nous, on le connaît bien en France, il est passé par le Stade Rennais. Il est désormais à Manchester City. Et aujourd'hui, c'est le visage de cette sélection belge.
Oui, pour moi, c'est la star parce que, bah, effectivement, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, ils sont toujours là. Ce sont, entre guillemets, nos vieilles gloires. Et puis, on va voir comment ils seront physiquement après pour De Bruyne et Lukaku, des années perturbées ici ces derniers mois par des longues blessures. Mais Jérémy Doku, c'est devenu vraiment l'incontournable de l'équipe, de la sélection. Alors, vous le connaissez bien en France, effectivement, il a encore, évidemment, grandi et de quelle façon en Angleterre, avec Guardiola à Manchester City. Alors, ce qui est incroyable avec Doku, c'est que tout le monde sait ce qu'il va faire, comment il va le faire, et pourtant, il met tout le monde en déroute par ses facultés d'accélération sur la qualité de dribbleur fou. Il mobilise systématiquement 2 à 3 adversaires, donc ça c'est intéressant parce qu'il crée des brèches pour les partenaires aussi. On lui reproche un petit peu encore son manque de chiffres, finalement, que ce soit des passes décisives ou des buts. Il est capable d'en mettre plus et il doit améliorer ça, mais dans ce qu'il construit, dans ce qu'il propose pour l'équipe, c'est vraiment l'élément incontournable de l'équipe pour l'instant.
Titulaire à tous les matchs des éliminatoires, 5 buts, 3 passes décisives en 8 matchs. Stéphane, est-ce qu'il a pris la dimension finalement qu'on attendait de ce joueur-là, et est-ce qu'il a les épaules, la carrure pour porter l'équipe nationale de Belgique? On rappelle qu'il n'est pas encore tout à fait titulaire indispensable à Manchester City, mais effectivement il est en train de prendre une vraie dimension.
Oui, il est en train de grandir sur ce point-là. Ça, c'est clair aussi dans son parler après match, quand il a quand même un peu critiqué aussi le coach il y a quelques mois. Il est en train de grandir, c'est ça. Il devient vraiment une personnalité. Je me rappelle quand j'étais avec l'équipe jeune des moins 17 au championnat d'Europe en Irlande. Il jouait un match contre la Grèce et le petit Jérémy Doku jouait sur le flanc. Il y avait un vieux monsieur juste devant moi. Il y a un moment, tournait sa tête vers moi, il disait « It's Pelé !» Et vraiment, il jouait comme… il a aussi un peu la figure de Pelé. Mais il peut devenir vraiment le joueur clé pour le futur. Hein. On a dit ça aussi de Youri Tielemans, qui est devenu dans son rôle aussi un patron. Mais Jérémy Doku, c'est quelqu'un pour qui on vient au stade. Comme Roberto Martinez disait toujours, « He brings a smile on your face », il apporte un sourire sur la figure. Des gens qui vont voir un match, vraiment, regarder Jérémy Doku, c'est vraiment un plaisir. Et j'espère aussi qu'il pourra apporter vraiment de bons résultats pour l'équipe. Oui.
le joueur à suivre maintenant de cette sélection. Alors c'est un joueur qu'on connaît, Charles de Ketteler, mais qui n'a que 24 ans, qui est désormais à l'Atalanta, passé par l'AC Milan. Manu, encore une fois, je me tourne vers toi. C'est un grand gaillard, hein, 1m92, même s'il a une tête de bébé un petit peu, mais c'est un grand gaillard. 2 buts, 3 passes décisives. Il peut jouer parfois avant-centre. C'est pas vraiment un tueur des surfaces, hein. Même en Serie A, en Italie, il n'a pas des statistiques extraordinaires. Mais lui aussi, il est devenu un cadre important de cette sélection des Diables Rouges.
C'est un joueur, je trouve, d'une très grande élégance et d'une très grande technicité. Il était déjà comme ça à Bruges. Il a encore grandi, évidemment, en Italie. Il a développé aussi son potentiel physique. Alors, il est très polyvalent. Hein. De Ketteler, vous pouvez le mettre sur un flanc, vous pouvez le mettre en soutien d'attaque, vous pouvez le mettre en pointe. Donc, c'est parfois le problème des joueurs trop polyvalents, c'est qu'on ne sait pas nécessairement où les mettre, mais il est précieux de toute façon. Et alors, ces derniers mois, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a fait quasiment toute une campagne de qualification sans Romelu Lukaku, qui était blessé. Et alors, se posait la question de qui pour mettre à la place de Lukaku comme attaquant, dans la mesure où Loïs Openda, qui normalement est le numéro 2, il a un gros problème de concrétisation en équipe nationale. Hein, il n'a plus marqué depuis le match contre l'équipe de France en octobre 2024. Batshuayi, ça remonte carrément à la Coupe du Monde au Qatar, et puis il n'est pas vraiment dans les bonnes grâces de Rudy Garcia, qui soit ne le sélectionne pas, soit le sélectionne et ne le fait pas jouer. Bref, l'option qui pour moi a été la plus concluante à mes yeux dans tous les matchs de qualif, c'était De Ketteler en position de faux neuf, comme on dit. Je suis pourtant d'habitude pas fan de cette formule qui nous a rarement réussi quand on l'a testé en sélection, même avec des Nazar ou des Dries Mertens. Avec De Ketteler, je trouve qu'on a là un excellent profil. Ce n'est pas de lui qu'on attend nécessairement les buts, mais il aide, il contribue à faire mieux jouer ses partenaires et à permettre les buts de la deuxième ligne.
Stéphane, tu l'as un petit peu croisé du coup en sélection. Est-ce que l'AC Milan, c'était peut-être un peu trop haut pour lui en quelques mots à ce moment-là, et puis c'était pas la meilleure période non plus du club italien?
À ce moment-là, c'était peut-être un peu plus haut, vu qu'il joue complètement différent ou mieux à Atalanta Bergamo. Et là, il est devenu vraiment le joueur qu'il est maintenant. Oui, là, peut-être il a eu un peu de malchance aussi, mais je l'ai croisé comme un talent, et quand il a joué son premier match, il a rentré, il a quand même marqué un but aussi. Donc, c'est quelqu'un qui vaut la confiance de l'entraîneur pour grandir dans le tournoi, dans l'équipe. Donc, oui, pour moi, c'est aussi, aussi à cause du fait que Luis Openda manque beaucoup de confiance et qu'il est quand même dans une situation compliquée à la Juve, que c'est peut-être l'opportunité de Charles de Ketteler de tenter sa chance quand il reçoit la chance et l'opportunité de jouer de Rudy Garcia, oui.
Et un petit mot, Stéphane, toi qui connais très bien ce vestiaire belge, aujourd'hui, est-ce que c'est encore une question de savoir si ça nous intéresse depuis la France, si on parle en français, en néerlandais ou en anglais? Je sais qu'à un moment donné, le logo, je crois, de la fédération inscrivait Red Devils, et alors du coup, c'était un choix neutre, dirons-nous. Mais comment aujourd'hui la jeunesse belge dans ce vestiaire s'exprime?
Ah, aujourd'hui, je ne sais pas, mais quand j'étais là, c'était en anglais. C'était avec Roberto Martinez, avec Domenico Tedesco.
Oui, ça règle les problèmes, effectivement.
C'était en anglais. Les Flamands, entre eux, ils parlent flamand. Les francophones, entre eux, ils parlent français.
Mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci, là. Ce n'est pas une question.
Mais c'est plus un problème. C'était un problème dans les années 90, 80, 70. Oui, là, c'était des problèmes. On avait ou bien un entraîneur fédéral qui était flamand, ou bien qu'il était wallon, francophone, ça posait des problèmes. Maintenant, depuis l'arrivée de Roberto Martinez, lui, il a effacé tous ces problèmes et on était unis comme une équipe, comme deux communautés.
Parfait.
L'un à côté de l'autre, donc sans problème. Et ça, bon, ce problème-là a été...
C'est parfait pour les États-Unis, donc le problème est réglé. Et ce programme américain, messieurs, donc vous le connaissez évidemment, 15 juin, Belgique-Égypte à Seattle, le 21 juin, Belgique-Iran à Los Angeles, et le 26 juin, Belgique-Nouvelle-Zélande à Vancouver. Alors déjà, c'est un vrai programme de Coupe du Monde, il y a quasiment tous les continents représentés. L'Iran, la Nouvelle-Zélande, des adversaires jamais affrontés, Manu, par la Belgique, et puis surtout avec en plus le système des meilleurs troisièmes qualifiés. Est-ce qu'on peut dire que la Belgique n'a pas du tout le droit à l'erreur, même doit terminer première de ce groupe?
Ah oui, elle doit terminer première, mais moi je n'ose plus m'avancer sur rien. Depuis la Coupe du Monde au Qatar, personne n'aurait dit qu'on n'allait pas passer le premier tour. Donc franchement, ici, ce serait présomptueux de dire qu'on va marcher sur et finir premier avec 9 sur 9. Mais c'est vrai que ce système-là, évidemment, nous est favorable. Les deux premiers qualifiés plus les 8 meilleurs troisièmes, on devrait vraiment le faire exprès pour passer à côté. Alors, on pourrait dire qu'il aurait été préférable de commencer par la Nouvelle-Zélande, qui est le moins prestigieux des trois adversaires. L'Égypte pour entamer le tournoi, ce n'est pas un cadeau. Hein. Je ne suis pas certain qu'on va nécessairement
s'en d'ailleurs, sortir. Dans l'histoire, 3 victoires de l'Égypte pour une seule de la Belgique. Ouais. Stéphane en parler tout à l'heure, le match du Koweït. Alors messieurs, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. C'est vrai que le format passe très vite et sur la Belgique, on aurait pu développer encore énormément de choses. En deux mots, Stéphane, ton pronostic peut-être pour ce Mondial 2026 de la Belgique, des espoirs?
Mes espoirs, c'est le plus loin possible. J'aimerais voir une finale, même quand je ne suis plus là. Mais oui, il faut passer d'abord premier en groupe et après, on verra. Mais comme Manu l'a dit, le premier match contre l'Égypte, ce sera déjà un match très difficile. Non seulement parce que c'est contre l'Égypte, aussi parce que c'est le premier match. Et dans le premier match, tout le monde veut se montrer, aussi des pays qui sont dans le classement plus bas que l'autre.
Et donc l'after Coupe du Monde Belgique touche déjà à sa fin, ça passe très vite, on aurait encore beaucoup de choses à dire. Il y aura un podcast pour chacune des 48 nations représentées à la Coupe du Monde sur RMC, tous les matchs à vivre évidemment sur YouTube, à la radio, podcast After Foot TV et la Coupe du Monde du 11 juin au 19 juillet. Ciao les amis, à bientôt.
RMC After Coupe du Monde, les 48 équipes.